Alors, je vous invite à regarder encore une fois dans le livre des juges ce soir. Nous sommes toujours dans le livre des juges et puis toujours, eh bien, au chapitre 2, on avance à petits pas, mais Dieu merci, nous avançons. Et donc, la semaine dernière, nous avions vu dans ce deuxième chapitre des juges, eh bien, cet avertissement, cette mise en garde, un peu ce, comment dire, comme un papa qui vient disputer ses enfants. Hein, de la part du Seigneur, qui va reprendre ses enfants sur leur désobéissance. On avait vu que malgré tout ce qu'ils avaient accompli, ils n'avaient pas obéi jusqu'au bout, hein, aux exigences et aux ordres que l'Éternel avait donnés, hein, par rapport au peuple qui habitait dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Et on a vu aussi, hein, de la part du peuple d'Israël, se repentir, hein, c'est ce peuple pleurer parce qu'ils se sont rendus compte de leur erreur, rendu compte, hein, de combien ils avaient négligé, hein, d'obéir entièrement et complètement à l'ordre de Dieu, au plan de Dieu. Et donc le passage qui suit, hein, toujours chapitre 2, et ce soir je pense qu'on verra surtout les versets 6 à 13, ici on voit le déclin spirituel d'Israël qui est vraiment expliqué. Hein, c'est une sorte de prologue sur les 350 années à venir, hein, concernant l'histoire d'Israël, sur ce cycle, eh bien, de désobéissance, ce cycle d'abandon de l'Éternel, ce cycle de châtiment, ce cycle de repentir. Et on verra que à travers l'histoire d'Israël, pendant toute cette période, ça a été vraiment chaotique, chaotique, parce que à la base, eh bien, on voit des personnes qui n'obéissent pas entièrement, on voit du compromis, on voit, hein, des décisions qui mènent le peuple, pas simplement à s'éloigner du Seigneur, mais vraiment à aller à l'opposé de ce que le Seigneur voulait pour son peuple. Alors, verset 6 jusqu'à verset 13, hein, que nous lirons ce soir. Donc, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Et donc, comme j'ai dit, pour ce soir, on s'arrêtera là et on, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, hein, la semaine prochaine, on continuera sur les versets suivants. Mais comme nous voyons ici, donc, après avoir été repris par l'Éternel, hein, pour leur désobéissance, après leur repentir, on voit quand même, bon, une situation, un bilan spirituel plutôt positif, mais qui aurait pu être mieux si effectivement Israël avait complètement obéit à l'Éternel. On voit une situation qui est positive, mais qui reste fragile, n'est-ce pas? À la suite de la mort de Josué, hein, et ici on a comme un flashback, encore une fois, on revient au début du livre des juges, hein, au chapitre premier, on parle de la mort de Josué, on revient à cette période-là. Et donc, après Josué, on a une certaine continuité. Hein, on voit ça au verset 7, que après Josué, le peuple a servi l'Éternel, et il a servi l'Éternel pendant toute la vie de Josué, mais aussi pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Et donc là, on se dit, bah, c'était bien qu'il y ait cette continuité, c'était bien que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël ont continué à servir l'Éternel, qu'il y avait ces anciens qui, quelque part, avaient pris le relais, hein, de leadership spirituel, dans le peuple, auprès du peuple d'Israël, et de les aider. à tenir ferme hein, sur les résolutions qu'ils avaient prises bien quelque temps auparavant. Hein, si vous voulez revenir, on reverra ça un peu plus tard, mais en Josué chapitre 24, on a ce discours de Josué au peuple d'Israël, avec moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, et le peuple d'Israël, nous voulons servir l'Éternel. Et donc il y a cette prise de décision assez forte du peuple d'Israël, qu'on voit cette continuité. Hein, après le décès de Josué, et c'est quelque chose d'encourageant. Mais dès le verset 10, il y a une rupture. Dès le verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. C'est-à-dire, tous ces anciens, finalement, ils sont morts également. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et on voit qu'à partir de là, il y a cette rupture et il y a ce déclin spirituel qui s'enclenche dans le pays d'Israël. Et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? On a une génération qui change complètement de direction par rapport à ce qu'ils ont connu, par rapport à ceux qui les avaient dirigés spirituellement, on a un demi-tour complet. Et on se pose cette question, mais comment est-ce que ça a pu se produire? Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments dans ce passage qui nous donnent des éléments de réponse, hein, qu'il est important de souligner. Parce que c'est vrai, on pourrait se poser la question, ben, est-ce que ben, peut-être que c'est les parents qui n'ont pas fait leur travail? Hein, rappelez-vous que ça faisait partie de la loi de Dieu, des parents, d'instruire leurs enfants, hein, le matin, le midi, le soir, en voyage, ils devaient instruire leurs enfants sur les choses du Seigneur. On sait que même pendant la conquête du pays de Canaan, ils ont dressé des monuments, hein, pour qu'ils puissent se remémorer ce que l'Éternel avait fait pour eux. Et ça devait servir aussi d'instruction pour les générations futures. On peut se demander, mais est-ce que les parents seraient fautifs là-dedans? On pourrait se poser la question hein, sur cela. On peut se poser la question sur ben, quel était vraiment le cœur de ces enfants. Est-ce que mais bon, toutes ces questions-là, je crois qu'on a des éléments de réponse ici dans ce passage. Déjà, dès la mort de Josué et dès la mort de ses anciens, il y a une perte. Il y a une perte on va dire, de figure qui dirige. On a cette perte de leadership spirituel, pieux. On voit que le peuple avait servi l'Éternel pendant toute la vie de Josué et des anciens qui ont survécu après lui, hein, soit environ pendant 20 ans après que Josué hein, les avait renvoyés dans leur territoire. Mais encore une fois, même si on a cette indication-là qu'ils ont continué à servir, ça ne veut pas dire qu'ils étaient tout le temps obéissants non plus. Bon, on ne sait pas tous les détails de ce qui s'est passé, mais on sait très bien que même dans notre vie, on peut dire oui, j'ai servi l'Éternel pendant toute ma vie. Est-ce que tout a été fait à la perfection? Non. Est-ce qu'on a été tout le temps obéissant? Certainement pas. Hein. Nous avons tous nos moments de chute, d'errance, dans notre vie chrétienne, qui fait qu'on comprend qu'à des moments donnés, même pendant ces 20 années après Josué, il y a pu certainement avoir des problèmes et des difficultés spirituelles qui ont eu lieu. Ce que ça veut dire, c'est que à ce moment-là, hein, cette moment, période de transition, ça allait bien parce qu'ils n'avaient pas encore adopté l'idolâtrie, ils n'avaient pas encore suivi hein, les idoles cananéennes. Mais si Dieu avait suscité parmi le peuple d'Israël à ce moment-là, on a vu que, bon, il a appelé Moïse. Et ensuite, après Moïse, ben, Josué, tu prends sa place. Et après, ben, pourquoi il n'y a personne? Pourquoi il n'y a personne? Moi, je me rappelle, il y a des années de cela, j'assistais à une conférence de pasteurs. Et puis, une des discussions, hein, qui avait été apportée, une des questions, c'était, bon, est-ce que nous, en tant que baptistes indépendants, nous n'aurions pas besoin d'une figure médiatique comme d'autres dénominations, d'autres groupes ont, etc., qui soit vraiment un peu, hein, le leader, hein, pour représenter ce que sont les baptistes indépendants? Et je crois que, bon, dans la grande majorité, les gens se sont dit, non, non, Christ doit être au centre de notre vie, au centre de notre prédication, au centre de l'Église, il est la figure, il est celui qui dirige. Et je crois que peut-être que c'est là où il y a eu un manquement, c'était ce déclic pour le peuple d'Israël de se dire, Dieu doit être notre guide. Et au lieu de chercher peut-être une figure ou d'attendre que l'Éternel suscite une telle figure pour eux, eux avaient la responsabilité de chercher l'Éternel. Eux avaient la responsabilité, hein, de s'enquérir de, ben, qu'est-ce que Dieu il veut qu'on fasse maintenant? Mais même si Dieu avait suscité encore une fois un autre homme, un homme pieux, un guide spirituel pour ce peuple d'Israël, est-ce que ça avait si bien fonctionné pour eux? Est-ce que ça avait si bien fonctionné? On peut aller jusqu'à Moïse et se demander, ben, pendant toute la période de l'Exode, est-ce que le peuple d'Israël avait vraiment tout fait comme il faut. Hein, malgré les preuves extraordinaires de la présence de Dieu, de sa puissance, de son amour pour eux, de sa grâce pour eux, ça ne les a pas empêchés de faire un veau d'or. Ça ne les a pas empêchés de murmurer contre l'Éternel, de se révolter avec Corée et les autres. Alors, peut-être si certains pensent, ouais, ça doit être les parents qui ont négligé d'instruire leurs enfants. Probablement, hein, Deutéronome 6, hein, nous dit que justement, c'est ce qu'il devait faire. Il doit les enseigner, les aider à mettre en pratique, etc., hein, toutes les lois que Dieu leur avait données. Est-ce qu'ils ont été de mauvais exemples? Je crois qu'encore une fois, si on regarde à l'historique, hein, du peuple d'Israël pendant, hein, la période de la conquête avec Josué, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais ça, c'est le propre de la vie de chaque personne, de chaque croyant, d'avoir des moments, hein, de haut spirituel, des moments où on n'est pas au top. Et ce n'est pas le fait forcément qu'il y a eu un mauvais exemple de la part des parents. Le verset 10 nous dit, c'est une génération qui n'avait pas connu l'Éternel, ne connaissait pas l'Éternel. Hein, la génération de Josué connaissait par expérience toutes les œuvres miraculeuses de l'Éternel en faveur d'Israël. Après la mort de Josué et des anciens, on a cette nouvelle génération qui se lève, qui n'avait eu probablement aucune expérience de voir la main de Dieu agir de manière extraordinaire. Il n'y a aucun vécu personnel avec l'Éternel. Ils n'avaient pas vu l'Éternel comme leurs aînés avaient pu le faire. De voir ses actes puissants. Hein, connaître des choses au sujet de Dieu, on sait, c'est totalement différent que de le connaître à titre personnel, n'est-ce pas? Même si les parents avaient enseigné les choses à leurs enfants, c'était aussi aux enfants d'accepter cet enseignement. Et d'accepter cet enseignement sur la base du témoignage de leurs parents, sans forcément eux-mêmes avoir vu quoi que ce soit d'extraordinaire que l'Éternel aurait fait. Mais la différence, elle est là. La différence entre connaître les choses au sujet de Dieu et de le connaître personnellement. Parce que c'est là la différence, eh bien, entre cette vie spirituelle, hein, que le christianisme biblique enseigne, hein, cette marche avec le Seigneur, c'est ça qui est différent de la religion. Hein, la religion, c'est on suit des règles, on suit des principes pour peut-être obtenir quelque chose, et on sait certaines choses au sujet de Dieu. Mais finalement, ils ne connaissent pas personnellement parce qu'ils n'ont jamais vraiment placé leur foi en lui, ni suivi réellement sa loi. Et donc, puisqu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils ne pouvaient pas non plus, de manière évidente, voir sa puissante main dans leur vie. Je crois que on doit l'admettre que beaucoup de chrétiens, même aujourd'hui, ne sont pas forcément attentif à tout ce que Dieu fait pour eux. C'est-à-dire, on vit notre vie avec beaucoup de choses qu'on accepte comme, ben, ça fait partie de ma vie, c'est normal, sans forcément voir que Dieu est là, que Dieu est gracieux, que Dieu, eh bien, nous aide à chaque instant dans notre vie, hein, et qu'il nous donne les capacités d'accomplir les choses. Et beaucoup de temps, nous passons sans même remercier Dieu pour les choses, même les plus simples et les plus petites. Hein, je sais que moi, ça m'arrive souvent, hein, pour des trucs assez banals, quand je suis en train de faire du bricolage, dire, bon, Seigneur, là, j'ai vraiment besoin d'un coup de main, et puis, paf, paf, ça se fait, merci Seigneur, ok? C'est un réflexe à adopter, c'est un réflexe à mettre en place dans notre vie, que de reconnaître la main gracieuse de Dieu, même dans les petites choses. Mais forcément, si on ne croit pas, comment est-ce qu'on peut voir la main de Dieu? Comment est-ce qu'on peut voir sa grâce dans notre vie? Cette génération ne connaissait pas l'Éternel, donc ne pouvait pas voir sa grâce dans leur vie. Hein, contrairement aux anciens qui avaient vu, hein, comme il est dit dans le verset, j'ai oublié de le noter, mais verset 7, hein, ils avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Ils ont été témoins de toutes ces choses. Témoin de la prise de Jéricho, de la traversée du Jourdain, de la prise de Jéricho, hein, de voir les murailles s'effondrer, hein, de toute cette conquête. Ils ont vu ça de leurs yeux. Et cette nouvelle génération, elle, quelque part, était ignorante de cela, pas forcément parce qu'elle n'en avait pas entendu parler, mais ignorante de cela parce que ça ne les concernait presque pas. Ah, ça, c'est l'histoire de mes parents. Moi, je n'ai pas vu ça. Trop souvent, je crois que beaucoup de gens, même beaucoup de jeunes dans les églises, s'attendent à voir les choses extraordinaires dans leur vie et quand ça n'arrive pas, ils disent, ben voilà, ça c'est pas vrai pour moi, ça ne marche pas pour moi, ça marche pour mes parents, mais pas pour moi. Mais voilà, les miracles, ou même quelque autre œuvre que Dieu va faire, hein, des œuvres extraordinaires, ne sont pas nécessaires pour provoquer la foi. On sait qu'il y a un lien. On sait qu'il y a un lien quand on lit les évangiles, par exemple, quand Christ accomplissait des miracles, beaucoup de gens ont cru, hein, et ont suivi. Hein, dans le livre des Actes des Apôtres, pareil, il y a des choses extraordinaires, des prodiges, les gens croient, ils se repentent, se font baptiser, rejoignent l'Église, etc. Mais l'aspect extraordinaire et miraculeux n'est pas nécessaire pour croire. Crois que c'est assez évident, même quand on relit les évangiles. Dans Matthieu chapitre 13, verset 58, déjà, on comprend qu'il y a ce lien, oui, entre croire et les miracles, etc. Mais Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de quoi? De leur incrédulité. C'est-à-dire que même pour que Dieu veuille accomplir des miracles et faire des choses extraordinaires, il attend quand même que quelque part il y ait une certaine foi. Peut-être même pas une foi grande, ou on sait que parfait, ça n'existe pas, mais il attend cela. Dans Luc chapitre 10, verset 13, il reprend justement certaines villes d'Israël. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaida. Pourquoi? Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, donc des villes païennes, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est même pas certain que si Dieu avait agi de manière miraculeuse pour cette nouvelle génération, ils auraient cru et obéi Dieu. Parce qu'à l'époque de Jésus, ils ne l'ont pas fait. Mais je tiens aussi à souligner une autre parole du Seigneur par rapport à cela. Jean chapitre 20 et verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire que cette génération d'Israël n'avait pas forcément besoin d'avoir vu la main puissante de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de voir les choses extraordinaires. Ce qu'ils avaient besoin de voir, c'est d'entendre le témoignage des parents, de voir leur vie et de prendre une décision par rapport à cela. À un moment donné, tout être humain doit faire un choix concernant Dieu, c'est certain. Et même si cette foi est initiée par le témoignage des parents, cette foi doit être fortifiée par cette marche personnelle avec Dieu et qu'ils découvrent par eux-mêmes cette grâce que Dieu a pour eux. Et comment Dieu agit avec fidélité et bonté. Et cette nouvelle génération-là, Elle avait besoin de cela, mais au lieu de faire cela, elles ont fait le choix contraire. Au lieu de faire ce même choix que leurs parents, hein, de craindre l'Éternel, de le servir avec intégrité et fidélité, de faire disparaître les dieux du milieu d'eux, de vraiment servir l'Éternel de tout leur cœur, eh bien, ils ont fait le choix inverse. Et ça, l'Éternel les avait avertis. Josué les avait avertis que s'ils ne le faisaient pas, s'ils n'ôtaient pas du milieu de ces dieux étrangers, eh bien, pour eux, ce serait une perte. Ils ont choisi d'agir contrairement à la loi. Hein, verset 11, nous voyons que les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Qu'est-ce qu'on a parmi les premiers commandements que l'on a de la part de Dieu pour Israël? Je suis l'Éternel ton Dieu, il n'y aura point d'autre Dieu devant ma face. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Je suis certain que la génération ancienne, celle de Josué, celle des anciens d'Israël, etc. Oh, mais connaissaient la loi. Et je suis certain qu'à un moment donné, ils ont dû dire à leurs enfants, non, on ne fait pas ça parce qu'on aime Dieu. Dieu veut qu'on l'aime. Mais même si ses parents avaient peut-être négligé d'instruire leurs enfants sur comment Dieu avait agi pour Israël, même s'ils n'avaient pas été de parfaits exemples, ou ils n'ont pas, comme beaucoup de personnes encore aujourd'hui, regardé dans la bonne direction, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé aux hommes plutôt qu'à Dieu. On entend souvent, très souvent, et c'est malheureux, c'est triste d'avoir un tel témoignage, mais d'entendre des gens dire « Ah, le problème avec le christianisme, ce sont les chrétiens, ce sont que des hypocrites. » Et c'est des gens qui malheureusement ne regardent pas à Dieu, ne regardent pas à Christ, mais regardent aux hommes. Et je ne pense pas que ces enfants aient pu échapper à cet enseignement de la loi. Je suis certain qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient quand ils ont choisi de servir d'autres dieux. Hein, verset 12, ils ont choisi d'abandonner l'Éternel, d'aller vers d'autres dieux. Ils ont choisi de se soumettre, de se prosterner devant ces idoles et d'irriter ainsi l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont servi les Baals et les Astartés, hein, nous dit au verset 13. On peut se poser la question, encore une fois, de comment est-ce que ça a pu arriver? Est-ce que c'est le fait, justement, que des parents n'ont pas enseigné comme il faut leurs enfants? Est-ce que c'est le fait que ces enfants ont fait d'eux-mêmes ou étaient peut-être influencés? Tout ce que l'on sait, c'est que verset 11, il y a un attrait. Il y a un attrait certain pour les servir les Baals. On sait que les Cananéens, les habitants de Canaan, avant la conquête israélite, se sont fréquemment mentionnés dans la Bible par rapport à leurs pratiques atroces et abominables aux yeux du Dieu d'Israël. Et c'est pour cela que Dieu avait donné ce commandement à Israël, eh bien de réduire à néant une population aussi perverse qui existait dans ce pays de Canaan. On peut sincèrement se demander, encore une fois, comment cette génération a pu être si facilement attirée par le paganisme, attirée par ces abominations. Alors oui, le déclin spirituel d'Israël s'est probablement produit lentement, presque imperceptiblement, et pourtant, en lisant ce passage, c'est vraiment un changement drastique, abrupt, une rupture. Alors peut-être que oui, la tentation et l'influence païenne a été trop grande. Hein, c'est pour ça que l'Éternel avait ordonné à son peuple de chasser hein, ce paganisme du milieu de cette terre, de ce pays. Hein, on avait vu qu'il serait une épine dans leurs yeux, hein, dans leur côté. Mais voilà, le mépris quelque part du commandement de déloger ces Cananéens a certainement conduit à cette tolérance de leurs pratiques. Et pire encore. On sait qu'il n'y a pas de tentation qui soit trop grande. Hein, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Hein, mais Dieu, il est là, Dieu il nous aide. C'est pas pour rien que Dieu appelle ses enfants à être saints comme il est saint, à être séparés du péché, des pratiques du monde qui nourrissent la chair, qui finissent par réduire au silence l'Esprit Saint dans la vie des croyants. Et ce qui est vraiment triste, vraiment là, en plus de rejeter Dieu, de rejeter sa parole, c'est que cette nouvelle génération dénigre non seulement Dieu, dénigre l'expérience personnelle de la génération précédente, peut-être En les accusant peut-être d'exagérer. Non, mais tu exagères, ils sont pas si mauvais que ça, là. Peut-être ils pensaient que leurs parents étaient trop stricts, intolérants. Mais vous savez quoi? Comme l'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Chaque génération va prononcer ce discours-là par rapport à la génération précédente. Oh, ils sont trop coincés, ils sont trop vieux, ils sont trop stricts, ils comprennent rien à rien. Et à chaque génération, historiquement, ce que l'on voit, c'est un déclin spirituel, un déclin évident. Et l'aboutissement de ce genre de raisonnement, de pensée-là, eh bien, on a un retentissant avertissement dans la seconde épître de Paul à Timothée au chapitre 3, quand il parle de ce que ce sera dans les derniers jours, il dit à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce que Paul dit à Timothée, c'est ce que cette génération aurait dû faire. Ils auraient dû voir ces Cananéens pour qui ils étaient et comprendre l'importance de rester fidèle à Dieu. Mais cette génération a choisi de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, de servir différents types de dieux Baal, de leur contrepartie féminine, les Astartés. Mais ils ont été attirés. Ils ont été influencés. Et quand on regarde à qui sont ces divinités et les différentes choses que ces divinités représentent, on peut voir, eh bien, l'attrait que même beaucoup de gens ont aujourd'hui pour ces mêmes choses. Baal était considéré comme le dieu de l'agriculture, de la pluie, une idée de prospérité. Son épouse, également sa sœur, était Anat, dans d'autres textes on l'appelle également Astoreth ou Astarté. C'était la déesse de la sexualité, la déesse de la fertilité. Et on voit que y a beaucoup de choses qui sont même dans ces religions païennes où on se dit, ben, finalement, on peut comprendre peut-être un certain attrait pour cela à cause de ce qu'ils représentaient, de ce qu'ils offraient. Mais aussi dans le fait que ces différentes divinités avaient aussi peut-être certains titres qui normalement sont ceux de Dieu. Parce qu'au-dessus de Baal, il y avait son père qui s'appelait El. El Elyon. Ça vous dit quelque chose? Okay. Donc on voit que le paganisme avait déjà des termes qu'ils employaient pour leur divinité qui normalement n'appartenaient qu'à Dieu. Et on peut comprendre que bah, il y ait cet attrait, on se dit, bah, voilà, ils ont des trucs, c'est un peu comme chez nous. Je pense, pour ceux qui connaissent le film de Rabbi Jacob, là, quand il rentre dans la synagogue déguisé en rabbin, lui, un bon français catholique, comme il dit, il entend Amen et il fait Amen. Ils disent Amen, c'est bien, c'est comme chez nous. Et on dit ça avec humour, bien sûr, mais c'est l'idée. C'est l'idée que, ah tiens, il y a des choses comme chez nous. Bah, ils adorent un dieu quand même. Ah tiens, bah, ils ont le même titre. Okay? Et par la suite, donc, le peuple d'Israël finit par mélanger les vérités de la parole de Dieu avec les religions païennes. En théologie, on va appeler ça le syncrétisme, c'est-à-dire une combinaison de doctrines, de systèmes qui, normalement, sont incompatibles et on va les forcer ensemble. Aujourd'hui, sous le couvert d'œcuménisme, de tolérance, c'est ce que beaucoup de religions essayent de faire. Et un jour, ça sera le cas. Il y aura cette religion globale, pour le monde entier. Mais si on regarde à ces divinités, voilà, il y a la poursuite de la richesse, la prospérité des cultures, une sexualité débridée. On va retrouver également la poursuite d'un certain mysticisme, parce que les Cananéens pratiquaient diverses formes de divination, de sorcellerie. Ils cherchaient à prédire l'avenir, à s'attirer la faveur de leur Dieu. Et c'est ce que Dieu avait dit à son peuple, non. Deutéronome 18, qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, la sorcellerie, qui interprète les présages, qui pratique la magie, qui jette des sorts. Bref, Dieu avait déjà donné les règles, Dieu avait déjà averti, mais ils ont été attirés par ces choses. Et malgré ces interdictions claires, Eh bien, les Israélites furent souvent confrontés à cette influence, hein, de pratiques païennes que l'on retrouvait en Canaan. Donc, l'attrait de la religion, de la culture cananéenne, oui, a engendré des périodes de syncrétisme où le culte israélite fut corrompu par ces éléments païens. Et on va voir ça se répéter tout au long du livre des Juges. On va voir cela se répéter. Il y a une certaine poursuite de l'individualisme également. Parmi les religions et les divinités qui existaient, souvent c'était on cherchait à obtenir la faveur pour soi-même. Il y a cette idée d'individualisme lorsque parmi les divinités cananéennes, il y avait Moloch à qui on sacrifiait des enfants. Et donc les Israélites ont, oui, été avertis à plusieurs reprises de ne pas adopter les pratiques de ces Cananéens. Et au final, quand on regarde, hein, brièvement, on aurait pu aller bien plus en détail là-dedans, la prospérité, la sexualité, une spiritualité mystique, l'abandon et le sacrifice des enfants, hein, l'individualisme. Franchement, il n'y a qu'un pas à faire pour regarder à aujourd'hui. Le point essentiel ici, c'est que l'être humain pécheur par nature, eh bien, il est enclin à adorer plusieurs dieux en même temps, n'est-ce pas? Même si beaucoup de gens aujourd'hui vont dire non, moi je suis athée, dans leur vie, il y a des divinités, il y a des idoles qu'ils poursuivent et qu'ils servent. Et la vision, hein, du monde de l'époque, tout comme celle de notre temps, bah, ils ont accepté l'idée que oui, il y a Dieu, mais on veut eux avec aussi. Tout comme aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui, bon, c'est bien, Dieu, c'est bien, mais on veut y rajouter encore quelque chose. On accepte son existence, mais pas sa souveraineté exclusive. Ouais, tu peux être un Dieu parmi les autres, mais il ne peut pas être l'unique et vrai Dieu. Ça, les gens ne veulent pas entendre. Hein, ce qui est vrai pour toi, c'est vrai pour toi, mais pas pour moi. Donc, ne force pas que Dieu est le vrai Dieu. Le Seigneur avait demandé au peuple qu'il avait sauvé et béni de l'adorer, lui et lui seul. Ils l'ont adoré d'une certaine manière, mais non, parce qu'ils adoraient d'autres en même temps. Et beaucoup de gens aujourd'hui continuent dans cette même voie en sélectionnant ce qu'ils aiment au sujet de Dieu, ce qu'ils aiment au sujet de Christ, ce qu'ils aiment dans la Bible, mais ils vont rejeter tout ce qui va les offenser leur propre moralité. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est le résumé du livre des juges. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, si ce n'est la même chose? Ah oui, c'est une tentation subtile pour les chrétiens nés de nouveau. On vit dans un monde qui nous offre une multitude de dieux alternatifs. Ah, beaucoup sont tombés dans la poursuite de la prospérité, et on entend ça dans des églises. Même dans la sexualité, beaucoup de chrétiens estiment qu'aujourd'hui, bah, je lisais un article cet après-midi qui parlait que même bon, dans un sondage qui avait été fait parmi les chrétiens, on dit au sens large du terme, parmi les jeunes, beaucoup d'entre eux avaient une activité sexuelle avant d'être mariés. Parmi les chrétiens. Il y a beaucoup de choses attirantes dans ce monde. Et c'est à nous, chrétiens, de faire attention. Déjà, de veiller sur nous-mêmes, d'aider les autres à avoir du discernement, hein, sur ce monde. Mais le plus grand danger, et c'est peut-être parce que c'est caché même à notre propre yeux, c'est pas l'athéisme, mais c'est lorsque des chrétiens, eh bien, demandent à Dieu de coexister dans nos cœurs avec les autres dieux auxquels nous nous prosternons. Ah. Ça peut être la prospérité, la richesse, ça peut être l'amour, la sexualité, ça peut être la popularité, ça peut être toutes sortes de choses que nous décidons que je veux bien de Dieu, mais je veux encore garder ceci. C'est comme ce jeune homme riche. Le Seigneur lui avait dit, il te reste une chose, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Et il est parti en pleurant parce qu'il était quoi? Trop attaché à son Dieu de l'argent. Nul ne peut servir Christ et Bélial. Soit il va aimer un et haïr l'autre, mais il ne peut pas. Et donc pour nous, il s'agit d'examiner notre propre vie. Comment est-ce que nous pouvons dévoiler les idoles que nous essayons d'adorer en même temps que Dieu? Ben, regardons notre vie de famille, nos choix de carrière, nos possessions, le temps que l'on passe pour certaines choses ou d'autres, nos amitiés, nos relations, etc., même amoureuses. Et demandez-vous, suis-je prêt à abandonner cela pour Dieu? Suis-je prêt à faire tout ce que Dieu dit concernant ce domaine, à savoir la pureté dans le mariage, à savoir faire des choix d'emploi et de carrière qui vont honorer Dieu? Suis-je prêt à accepter tout ce que Dieu, eh bien, va envoyer dans ce domaine pour moi et me dire que faut que tu changes ça, faut que tu abandonnes ça? Est-ce que je suis prêt à cela? Et alors, si la réponse, elle est non, eh bien, c'est un domaine de votre vie, de votre cœur, où que vous avez ouvert cet accès à une idole. Et en ce sens, quelle différence y a-t-il entre vous et cette génération-là, en Israël? Tout autant coupable. Donc, Dieu voulant, la prochaine fois, on va regarder à la suite de ce chapitre 2, de voir comment Dieu va traiter cette situation-là, qui, encore une fois, ce chapitre 2, c'est un peu un prologue sur mais à toutes les années par la suite, hein, de ce qui va se produire, de voir comment Dieu il va chercher à régler cela. Hein, mais une chose est certaine, c'est que ces enseignements qu'on voit à une époque qui a existé, hein, il y a si longtemps que cela, c'est toujours pertinent. Hein, beaucoup de gens disent, oh, il faut qu'on essaie de rendre le christianisme ou la Bible, que ce soit en phase avec notre société aujourd'hui. Vous savez quoi? L'enseignement, il est complètement en phase. Encore, il est encore bon pour aujourd'hui. C'est la société qui n'est plus en phase avec la parole de Dieu. Et c'est là où ça coince. C'est là où ça coince.